France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Sophie Janin. Je suis née le 6 septembre 1976 à Österåker en Suède et je suis chef de chœur.
Sophie Janin, les études à un moment s'arrêtent. Sans doute que le fait d'avoir commencé à travailler aussi pour les London Voices et dans différents ensembles font que la transition vers la vie professionnelle est plus douce, moins brutale. Mais voilà un moment où on entre dans la vie active, on est chef.
Oui. Et je travaillais déjà avant de sortir des études, donc c'est vrai que la transition était plutôt douce. J'avais fait quelques contrats en freelance à droite et à gauche en Angleterre, j'étais partie en Roumanie diriger un peu. J'enseignais aussi le chant choral. C'est mon premier poste où j'ai travaillé avec des enfants, c'était au Royal College, à leur département junior où j'avais commencé à travailler. Du coup, j'avais déjà entamé plusieurs voies, mais en effet, je devais avoir deux ou trois chœurs que je dirigeais de façon permanente, plus l'enseignement, plus les contrats en freelance, et c'est une vie un peu dans son sac à dos.
Et vous choisissez à ce moment-là, Sophie Janin, la France comme deuxième pays. Vous ne choisissez pas de passer l'examen pour devenir professeur en Suède?
Bah, déjà en France, parce qu'il y a des postes en France et il y a un environnement de conservatoire. En Suède, la direction de chœur, elle ne s'enseigne pas avant la spécialisation à l'Académie royale. Et c'est la même chose en Angleterre. Il y a des petits cursus comme ça, mais il n'y a pas vraiment un système de conservatoire. Donc ça me plaisait dans l'idée qu'il y avait une possibilité de travailler en direction de chœur dans ce contexte-là.
Vous avez dit, Sophie Janin, que votre premier emploi, c'était le département junior à Londres. C'est pas la découverte des voix d'enfants, parce que vous en avez été une, mais c'est quand même peut-être la découverte de faire chanter ces voix d'enfants. Qu'est-ce qui va vous séduire? Est-ce que la graine commence à fleurir là-bas?
C'était drôle, parce que quand j'ai commencé à travailler avec les enfants là-bas, j'avais eu l'impression de toujours avoir fait ça. Je sais pas pourquoi. Je crois que j'ai toujours, en effet, gardé des souvenirs très très forts de mon enfance et de mes activités vocales et chorales. J'ai aussi enseigné, même en étant jeune, même quand j'étais même à l'école, au lycée, je donnais des cours de remplacement, tout ça. Donc j'ai toujours été dans cet univers d'enseignement. C'était en tout cas très naturel. Et puis en même temps, je me suis amusée avec l'idée que quand j'étais enfant moi-même, on m'a jamais vraiment poussée à dépasser mes limites. Et parfois, je trouvais que c'était un petit peu condescendant de la part de mes enseignants. Parce que je trouvais qu'on méritait mieux, en fait. Et c'était pas parce que j'avais un besoin personnel d'être stimulée, c'est que je trouvais qu'il fallait croire plus aux enfants. Et ça, dans mon premier poste, je me suis déjà amusée à ça. Je me suis dit, tiens, on va mettre la barre haut. J'ai vu que quand on mettait des objectifs qui étaient vraiment quelque chose pour une réussite et quelque chose d'intègre artistiquement, eh ben, les enfants, ils se sentaient performants. Donc j'ai tout de suite trouvé ça. Et ça, c'était quand même passionnant.
Car c'est la perspective qui nous captive. La perspective qui nous dicte ça. Oui, c'est la perspective qui nous captive. La perspective qui nous ouvre les bras. En gros et tout devant, il y a le premier plan. Et progressivement différents arrière-plans. Le regard est perdu, le paysage est immense. Les formes diminuent en fonction de la distance. Il faut savoir surtout créer une atmosphère en usant des atouts d'une belle lumière. Il faut aussi varier les grosseurs et les tailles. Tout là-bas, le clocher est grand.
Thank you.
Souvent, vous avez parlé depuis le début de notre entretien, Sophie Janin, de l'importance de la bienveillance comme étant un moteur pour aller loin.
C'est vital d'essayer de monter et de construire la confiance des jeunes personnes. Comme vous dites, c'est des âges fragiles. Si on perd la confiance quand on est jeune, on ne devient pas la personne qu'on est censé devenir. Et la perte de confiance, pour moi, elle est tellement dangereuse. Je l'ai vu déjà dans d'autres. J'ai aussi eu des moments où j'ai perdu confiance. Malgré tout l'accompagnement que j'ai pu avoir, ça m'arrive encore de douter beaucoup. Et c'est des moments très difficiles. Et quand je vois des enfants en face de moi qui sont pas confiants, qui ont peur ou qui se sous-estiment à cause de cette manque de confiance, ça me bouleverse, en fait, parce que personne mérite ça. Et du coup, le meilleur véhicule de motivation, c'est l'artistique, c'est la musique, avec une bienveillance dans le sens où il faut encourager et enthousiasmer. Jamais intimider l'enfant, jamais faire peur à un enfant. De comprendre que pour obtenir des résultats, il faut du travail. Mais le travail, ça ne veut pas nécessairement dire une souffrance. Au contraire, on peut apprendre des choses dans des conditions où on n'est pas toujours confortable, mais en tout cas, ça ne doit pas être désagréable. J'ai une équipe formidable qui aide les élèves avec moi-même. On essaie de les aider juste à s'organiser, à dire qu'il faut de la méthode. Il faut aller tranquillement. Parce que si les élèves sont là, c'est qu'ils ont un talent déjà très intéressant, ils ont un super potentiel. Et maintenant et après, il faut juste la rigueur qui l'accompagne. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend. Ça ne vient pas naturellement chez quelqu'un quand on a 11 ans. Les enfants dont ils ont besoin, il me semble, mes élèves, c'est de la constance. De savoir qu'ils ont des adultes en face qui sont toujours pareils. Parce que les enfants ont tendance à penser qu'on les aime moins ou on les aime plus ou on est gentil, on n'est pas gentil. De séparer la personne et la fonction de la personne, c'est très dur de faire cette distinction quand on est jeune. Donc je pense que pour nous, d'être constant et de parler de la musique et d'essayer de trouver les clés pour inspirer l'enfant, c'est tout ce qu'on peut faire vraiment. Et la musique, bien évidemment, nous aide à être constant. Je me souviens d'avoir entendu, dans mon apprentissage, des professeurs de chant me dire « Alors, est-ce que tu veux bien me faire cette vocalise ?» Et ça me dérange, mais je ne vais pas faire la vocalise. Enfin, à l'époque, bien évidemment, j'étais dans le besoin de plaire et d'être validée par la personne. Donc oui, je vais lui faire les vocalises, mais ça me dérangerait énormément qu'on parle comme ça à des élèves aujourd'hui. Et moi, je ne parlerais pas comme ça à la maîtrise. Faites-moi cet exercice. Non, ils font de la musique pour la musique. Ils font de la musique pour leur construction à eux. Ils ne font certainement pas les choses pour moi.
Vous dites, Sophie Janin, qu'en même temps, vous êtes une éponge et c'est normal. C'est-à-dire que le destin d'un de vos élèves, il vous bouleverse.
Oui.
Donc, cette émotion, elle existe. Et j'imagine que c'est comme l'interprète, le professeur, à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il faut aussi, c'est le paradoxe du comédien, il faut réussir à faire la part des choses.
C'est l'implication objective, c'est ça. Et c'est difficile, en effet. Il y a des moments où on n'arrive pas parce qu'on peut être fatigué. Là, récemment, à la maîtrise, je me souviens, on avait donné le petit opéra tchèque Brundibar qui avait été donné pendant la guerre à Theresienstadt. Et à la création, les enfants qui avaient participé à la création, il y avait seulement l'enfant qui avait incarné le rôle du chat qui a survécu. Tous les autres enfants sont morts. Et ça m'a frappée pendant le concert. Et Non, c'était pas mal la générale, voyez. J'ai continué un petit peu et puis on a pu faire une pause et je suis sortie en coulisses et j'ai pleuré dans un coin pour revenir et pour faire la répétition et pour pouvoir être positive et parce que le projet, il est positif. Et donc, il ne faut pas non plus se laisser dans ces sentiments qui débordent. Mais cette implication objective, elle est en effet difficile à obtenir par moment. Et c'est là où on peut être bon. Parce que si on perd du discernement, on n'est pas nécessairement la meilleure version de soi-même. On peut le croire, mais c'est rarement vrai.
Annika est réveillée, Pépitchek.
Bonjour, Pépitchek.
Pépitchek est réveillée, Annika.
Bonjour, Sorette.
Toutes les maisons de la rue sont baignées de soleil. Le coq lance son cri, mais la nuit est finie. C'est le frère du réveil, l'ennemi du sommeil, pas de la nuit. Cocorico, cocorico, c'est trop tôt. Ce coq chasse de la maison, filles et garçons, pas de la nuit. À la ville, c'est pareil, quand chante le réveil, l'étudiant jette sa couette, mais ses chaussettes, pas de la nuit. Enfants, sortez de vos lits et mangez d'appétit, l'heure des coups des proches, puisque sonne les cloches, bonjour la vie.
Les grands entretiens de Sophie Janin, France Musique.
Quand nous arrivons en 2008 à la maîtrise de Radio France, Sophie Janin, vous êtes quand même très jeune et vous allez vous prendre ça de plein fouet parce que vous arrivez dans une histoire de la maîtrise qui n'est pas facile. Le chef de chœur disparu.
Tony Ramone.
Brutalement. Oui. Donc vous allez l'apprendre très vite. En tout cas, très vite, vous êtes confronté à ça. C'est comme ça que vous commencez cette relation avec ces enfants. C'est donc pas facile. Et il y a toute une équipe autour de vous. Pas facile non plus, d'ailleurs, parce qu'elle aussi a subi le même choc.
Oui, oui, c'était pas facile. En fait, de chanter, l'acte physique et mental de chanter pour les enfants était devenu synonyme avec pleurer quand je suis arrivée. Donc, c'était pas facile à gommer et surtout, j'ai dû le faire sans être dans l'affect. Et c'est difficile, parce que pour un enfant, je crois qu'ils auraient souhaité que je sois plus tactile, plus personnelle, plus affectueuse. Et je voyais pas que c'était rassurant à long terme. Et que c'était pas sain non plus. Je trouve pas que c'est sain dans une relation de travail. Donc, j'ai essayé de juste implanter un sens de sécurité et de confiance par une objectivité et par un but artistique très, très précis à chaque fois. Mais bon, ça vient pas sans une certaine pression pour des jeunes gens. Donc j'ai vécu des moments qui n'étaient pas faciles, et en même temps je me suis dit, au moins je viens de l'extérieur, moi je n'ai pas d'histoire par rapport à ça, donc je vais pouvoir être objective, pouvoir penser au bien de la formation. C'est vrai que j'étais très soucieuse d'apaiser l'équipe, mais la priorité, c'était les enfants. Et je trouve qu'on a quand même réussi à avoir une ambiance de travail où les gens viennent avec joie travailler.
Vous avez sans doute eu aussi comme moyen de développer l'appétit de ces enfants et le vôtre en faisant que ces saisons soient plus fournies en termes de concerts, qu'il y a à partir de 2007 aussi ce site de Bondy qui fait que l'effectif va passer de 80 à 180,
oui.
Pas de façon immédiate, un peu crescendo, mais tout de même. Donc il y a aussi ce dynamisme qui sans doute va vous aider tous autant que vous êtes à réaliser la bascule nécessaire.
Oui, j'ai augmenté le volume des concerts, des productions, j'ai un peu diversifié aussi. J'ai cherché d'autres répertoires, j'ai voulu continuer dans les mêmes pas que mon prédécesseur. Je trouvais qu'il avait fait un travail absolument extraordinaire, notamment au niveau du cursus d'études, j'ai changé très peu de choses. Et aussi au niveau des esthétiques qu'il défendait, j'ai continué dans la même lignée. Mais oui, j'ai voulu créer de l'effervescence par plus de production. C'était aussi pour pouvoir motiver pourquoi Bondy, pourquoi ce site, pourquoi ces nouveaux élèves. Donc c'est vrai que j'ai augmenté le volume. Et j'ai aussi, pour la première fois, laissé diriger des chefs assistants, parce que ça n'avait pas été le cas avant. Moi, je trouvais que c'était plutôt sain que les autres chefs assistants arrivaient aussi à aboutir des projets avec eux à la baguette à la fin.
Vous êtes aussi aujourd'hui nommée depuis 2017, mais de façon effective depuis cet été à la tête des BBC Singers. Ce sont deux formations de radio. Quel sens ça a pour vous, Sophie Janin?
Déjà parce que j'ai grandi en Suède dans un univers, on va dire, très conscient politiquement. J'ai une passion pour le service public et j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour le service public parce que c'est un ancre très important dans une civilisation. Ce qui veut dire que quand on dessine un projet artistique, on doit laisser vraiment son ego à côté. Son ego n'a rien à voir là-dedans. On doit regarder quelles sont réellement les missions du service public ici, comment les définir et après comment les porter, comment les défendre. Alors, ça paraît extrêmement grandiose et prétentieux quand je dis les choses comme ça, mais juste pour situer à quel point c'est une tâche difficile, parce qu'on est petit à côté de ça, et on est assez insignifiant aussi. À la BBC, à la maîtrise, comme pendant les années où j'étais avec le chœur de Radio France aussi, j'essaye de construire la saison avec venant de trois axes, c'est-à-dire de regarder de quoi a besoin le public pour être enthousiasmé par ce qu'on fait, pour être diverti, de quoi a besoin l'antenne, de quoi a besoin notre saison artistique pour être équilibrée au niveau de la programmation générale, pour défendre et promouvoir certains répertoires. Et le troisième axe, comment construire cette saison de l'intérieur pour que la formation s'embellisse à chaque fois de plus en plus. Mais parfois, c'est comme si j'étais d'une autre génération parfois et je me retrouve souvent entourée des gens qui trouvent que je me préoccupe un petit peu trop de ces missions nationales. Mais pour moi, ça reste important. Je trouve que j'aime les idéologies et j'aime l'idée d'une responsabilité collective. Et pour moi, c'est en fait un honneur, je dois dire, de faire partie de ce genre d'institution.
Quelque chose de l'ordre du politique dans votre façon de mener cette carrière. Est-ce que vous avez la possibilité de pouvoir, j'allais dire, aller au bout et voter aussi en France
je suis suédoise, je vote en Suède. Je suis engagée par d'autres moyens. Moi, je ne suis pas engagée politiquement au-delà de mon engagement pour la musique. Mais j'arrive à militer pour la musique dans la société. Donc, j'essaye de utiliser chaque plateforme comme je peux pour parler de l'importance de la musique parce que ça n'a pas vraiment de couleur particulière. Et donc je reste prudente pour pas être identifiée avec un côté ou un autre parce que la musique souffrirait à ce moment-là. Mais que les enfants doivent apprendre la musique à l'école, ça c'est pour moi une évidence. Et comme ça paraît apparemment pas évident pour tout le monde encore, je continue à parler de ça. Et au-delà de l'enseignement, si on parle de la présence de la musique classique dans la vie des gens, des citoyens, ça c'est quelque chose que nous, les musiciens, nous sommes responsables de ça. Quand on travaille pour un service public ou non, mais c'est notre devoir de faire en sorte que ça soit pérenne. Et pour moi, ça a toujours été essentiel de parler de ça et de faire la musique comme ça. Et ça passe aussi par la création contemporaine. Chanter la musique de notre temps, ça fait partie de notre métier. et en même temps faire survivre un patrimoine, c'est essentiel aussi. Et c'est pas la média populaire qui va nous aider là-dessus.
La radio donne aussi la possibilité de création, c'est-à-dire qu'on peut encore commander des œuvres. Par exemple, si on réfléchit aux 70 ans du cœur, vous avez pu commander une pièce à Philippe Ersant.
Oui.
Ça, c'est très fort.
Oui, et chaque année, je commande et fais des premières des nouvelles pièces. C'est très important. Et la radio, on a cette chance. Mais avec la radio, on bénéficie aussi de l'accès à la culture pour presque rien. Il y a la redevance à payer, mais la radio est démocratique pour moi. Et ayant vécu dans une ville qui n'avait pas de salle de concert, j'ai beaucoup écouté la radio. Et c'est grâce à la radio que j'ai pu entendre la musique classique. Et là-dessus, on doit être extrêmement vigilant quand on habite dans des métropoles. Moi, j'exerce sur des scènes à Londres ou sur des scènes à Paris souvent, ou ailleurs. Mais je sais ce que c'est d'être dans un village qui est loin. Et l'idée pour moi de la transmission d'un concert, elle est magique. Parce que tellement de fois dans ma vie, j'ai été chez moi avec ma mère et toutes les deux en écoutant la radio et on avait l'impression d'être dans une salle de concert. Et ça, c'est extraordinaire. Et le choix de programmation doit être fait en fonction. Apprendre, découvrir, être diverti, être informé, être éduqué. C'est ça finalement l'émission. Et il me semble que ça reste essentiel aujourd'hui, comme ça l'a été à sa création.
Jeanne, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez différentes façons de vous investir politiquement. En travaillant, j'en ai vu deux, notamment hors des formations dont on vient de parler, avec votre relation à El Sistema en Grèce,
oui.
Et puis avec aussi l'Orchestre de Kinshasa. Ça, ce sont deux programmes qui vous tiennent à cœur.
Oui, parmi tant d'autres, parce que c'est deux projets qui me passionnent, c'est-à-dire que pour El Sistema Greece, de partir et de travailler avec les enfants réfugiés, parce que c'est une crise humaine de la planète qui doit préoccuper tout le monde. Et moi, dans mon univers, ce que je peux faire, c'est d'aller travailler en tant que musicienne, et je trouve que ce projet est tellement, tellement magnifique et tellement important de donner ce cadre aux enfants grâce à la musique. On fait aussi des choses avec la maîtrise ici à Paris, dans ce sens-là. On va faire une pièce cette année avec des enfants réfugiés ici à Paris, mais aussi avec des jeunes garçons. Trop grand pour chanter dans un chœur d'enfants, mais pas assez grand pour être considéré adulte. Ils sont dans un centre d'accueil ici. Mais ils vont construire la scénographie. Donc ça, c'est très chouette. On va travailler avec eux, mais par la musique, par la culture, trouver des moments de normalité pour des enfants qui en ont pas eu, c'est ce qu'on peut faire, nous. Et bien évidemment, avec tous les bienfaits que la musique apporte, ça, c'est important. Et puis, le projet en Afrique, que j'ai fait par deux reprises à Kinshasa, c'est justement la force de la musique classique sans frontières. C'est-à-dire que de découvrir des musiciens qui ont envie de travailler, mais qui sont dans un contexte où la musique classique ne coule pas naturellement dans la société, où il y a un manque d'institutions, et de pouvoir, moi, apporter quelque chose avec moi, de venir avec du répertoire, et juste pour pouvoir vivre ça avec eux. Quand on parle de transmission, finalement, elle se passe dans les deux sens. Hein. On revient de ce genre de voyage assez fatigué, mais quand même très inspiré, parce que ça nous rappelle, nous, à chaque fois, pourquoi on fait ce qu'on fait. Et c'est là où finalement, je me lasse pas de travailler avec la maîtrise aussi, parce que on se sent utile par moment quand on fait ce genre de choses. Et je me sens toujours chanceuse de faire de la musique, mais j'ai envie de me sentir utile aussi. Et des projets comme ça à côté participent à ça.
C'est sur cette ode à la musique d'Emmanuel Chabrier, interprétée par Sophie Janin à la tête de l'Orchestre National de France et de la maîtrise de Radio France en 2012 au Cirque d'Hiver que se termine cette série des grands entretiens avec la chef de chœur. Réalisation Gilles Blanchard, prise de son Yves Lehors, mixage Romain Lenoir, attaché de production Flora Sternadel. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau portrait d'artiste.
À réécouter sur francemusique.fr.